Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h, c'est Aude Vernuccio qui vous informe, qui vous dit tout. Bonjour Aude.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, des torrents d'eau qui dévalent les rues, un pont qui s'effondre, image apocalyptique en Côte d'Azur.
Situation préoccupante après le passage de la tempête Alex. Les Alpes-Maritimes et l'arrière-pays niçois ont payé un lourd tribut. 12 personnes sont portées disparues, dont 2 personnes âgées montées sur le toit de leur maison avant qu'elle ne s'écroule. 2 pompiers sont aussi recherchés, emportés dans leur véhicule à Bolène-Vésubie. Hugo Hamelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Plan du Var pour RTL. Quelle est la situation ce matin ?
Eh bien, Aude, la météo s'améliore. Tout d'abord, il ne pleut plus depuis le milieu de la nuit. Le ciel se dégage et surtout le débit de la rivière le Var, juste à côté de laquelle je me trouve, qui charriait hier d'énormes troncs d'arbres. Eh bien, c'est un petit peu calmé ce matin. Les routes pour accéder à la vallée de la Vésubie sont toujours fermées, notamment à cause d'éboulements. Et des dizaines d'habitants ont dû passer la nuit à l'hôtel, parfois sans nouvelles de leurs proches, restés coincés là-haut. C'est le cas de Laurent.
J'ai pas pu rentrer. J'ai pas de nouvelles toute la nuit de ma famille. C'était inquiétant. Il n'y a pas de réseau téléphonique, les secours ils sont pas au courant, de toute façon ils étaient débordés. Là. Ils sont à Puget-Théniers, à la piscine municipale. Ils ont été évacués, mis à l'abri. Voilà.
Est-ce qu'il y avait des dégâts là-haut ou...
Ah ben il y a 2 maisons qui ont été emportées, ouais, c'est pour ça qu'ils ont évacué. Alors maintenant on va découvrir ça.
Alors vous l'avez dit, il y a une dizaine de disparus et notamment un officier de gendarmerie emporté à Saint-Martin-de-Vésubie. On a vu décoller les premiers hélicoptères qui vont partir à leur recherche ce matin, mais le niveau des rivières ne menace plus les ponts.
Bah, évidemment que le niveau a baissé, on le voit bien.
Là vous pouvez pas rentrer chez vous, c'est ça?
Ben non, je peux pas rentrer chez moi. Ou alors à pied quoi. J'ai ma propriété privée, j'ai peut-être des dégâts, je ne sais pas comment je vais trouver chez moi, il n'y a personne, donc il faut que j'y aille absolument.
Ce matin, plusieurs villages restent impossibles d'accès, même pour les pompiers, ils peuvent uniquement être ravitaillés par les airs.
Hugo Hamelin en direct de Plan du Var pour RTL. Vous le disiez, de nombreuses routes restent coupées ce matin, notamment près de Tende. Une personne est recherchée dans cette commune, un village défiguré, raconte le maire Jean-Pierre Vassallo.
On est vraiment dans une situation qu'on peut appeler de catastrophique. Hein. Nous, le village est entièrement coupé au nord et au sud. Nous avons plus d'eau potable, l'eau déborde sur tous les ponts. La route est entièrement coupée, la canalisation d'eau qui alimente le village est entièrement coupée avec deux hôpitaux où il y a plus de 300 personnes. On a rassemblé des gens dans la salle des fêtes de Tende, dans la salle des fêtes de Saint-Delmas. Le vieux Tende a été inondé en partie. Nous sommes vraiment dans une situation catastrophique. On aura besoin de beaucoup d'aide, voilà.
Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. A noté que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra dans le département des Alpes-Maritimes aujourd'hui. 4 départements restent donc en alerte. Les Alpes-Maritimes repassent ce matin en orange pour des crues en aval du Var et vagues submersion. Vigilance orange également pour les Alpes de Haute-Provence pour la crue en amont du Var. La Corse du Sud est aussi en orange pour vagues et submersion et les Côtes d'Armor pour de fortes pluies et un risque d'inondation.
Soyez prudents évidemment et notamment si vous devez vous déplacer. Le reste de l'actualité. Aude, des restaurateurs menacés par le spectre d'une nouvelle fermeture.
Paris et sa petite couronne ont obtenu un sursis de quelques jours, mais pourraient passer en alerte maximale dès lundi. Le nombre de cas de Covid-19 explose. 5 autres métropoles ont aussi dépassé les seuils d'alerte. Pour éviter un scénario à la Marseillaise, les patrons de restaurants ont mis sur la table un nouveau protocole plus strict, Étienne Baudu.
Ce nouveau protocole comprend 3 mesures phares. La prise de température des clients à l'entrée, la limitation des groupes à 8 personnes contre 10 actuellement et la mise à disposition d'un recueil dans lequel les clients indiqueraient leurs coordonnées afin de prévenir les autorités sanitaires en cas de contamination. Un cahier de rappel qui ne fait pourtant pas l'unanimité, il pourrait même être contre-productif, explique Didier.
Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord d'être fiché, tracé, rentrer au restaurant, de venir prendre son petit plat le midi ou ainsi de suite et d'être répertorié sur quelque agenda que ce soit électronique ou papier. Je pense ça va être du négatif, ça va en dissuader plus d'un, je pense.
Alors malgré tout, la plupart des restaurateurs veulent sortir de cette impasse et comme Lionel, absolument ouvrir.
On a fait tellement de choses, on a divisé nos capacités par 50%, on a mis le port des masques, tous les menus sont sur QR code, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est pas une prise de température ou marquer le nom des clients qui va être compliqué. Et si on doit passer par ça pour rester ouvert, il faut le faire.
Il faut maintenant attendre la réunion de revoyure prévue dimanche soir ou lundi pour réévaluer donc la situation. Entre temps, ce nouveau protocole sanitaire pourrait être soumis au Haut Conseil de la Santé publique et au final c'est le Premier ministre qui devrait trancher en début de semaine, donc pas avant.
Reportage signé Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Les derniers chiffres de Santé publique France, légèrement en baisse. Plus de 12 000 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures. On compte actuellement plus de 1 200 cas graves en réanimation.
Je vais bien, je pense. Donald Trump a donné de ses nouvelles cette nuit sur Twitter depuis son lit d'hôpital.
Le président américain atteint du coronavirus teste un traitement expérimental. Il souffrirait de fatigue, de légers symptômes, d'après le médecin de la Maison Blanche. C'est tout de même la première fois qu'un président est hospitalisé depuis Ronald Reagan. Et les partisans de Donald Trump sont venus sous ses fenêtres pour témoigner de leur soutien. Lionel Gendron, vous êtes à Washington pour RTL.
Oui, la plupart sont arrivés dès qu'ils ont appris que leur président venait se faire soigner ici. À minuit, ils étaient encore une dizaine à brandir des drapeaux américains, casquette Trump sur la tête, dont Larissa, une infirmière, pas du tout inquiète.
Il a reçu un cocktail de médicaments, ce qui est bien. Maintenant, il est sous Remdesivir, ça allait. Les médecins le suivent bien, il n'est pas sous oxygène d'après ce que j'entends, ça va aller.
À côté d'elle, Paolo, italo-américain de 50 ans, il est plutôt là pour célébrer Donald Trump. Pour lui, le président est invincible. Cet habitant de Washington a le vocabulaire et les réflexes de son héros.
Je suis moi-même un survivant. J'ai été malade et j'ai pris de l'hydroxychloroquine il y a quelques mois. Le président est fort, même si c'est un vrai problème ce virus chinois.
Paolo est parti se coucher, il doit se lever tôt, mais il le promet, demain, il reviendra tout de suite après le travail.
Lionel Gendron à Washington pour RTL.
Vous restez bien là, il est 8h07, la suite du journal de Haute-Vernoucho dans un instant, avec un incroyable réseau démantelé entre la France et la Belgique. On va vous expliquer juste après ça, à tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
8h08 en ce samedi matin. Bon réveil à vous tous. La suite du journal avec Haute-Vernoucho. Et on en vient à cette opération de police franco-belge. Un réseau criminel démantelé.
Montant estimé du butin, 5 millions d'euros. La manœuvre était simple. Faire venir des migrants, leur promettant par exemple un logement. Mais pour se faire rembourser, l'organisation obligeait les enfants des familles à faire la manche, Caroline N.
Des enfants de tous les âges, pour le moment, 15 mineurs entre 0 et 12 ans ont été confiés au service de protection de la jeunesse. Ils étaient échangés entre plusieurs zones de mendicité et ont subi des dommages physiques et mentaux. Le réseau criminel a facilité l'entrée en Europe de migrants syriens, leur a fourni des documents contrefaits et un logement. Avec ces faux documents, ils pouvaient demander l'asile et les prestations sociales, parfois pour le même enfant, sous différentes fausses identités. Cette activité frauduleuse et la mendicité forcée ont permis au réseau de récolter 5 millions d'euros. 13 personnes ont été arrêtées dans les régions de Paris et de Lyon. Pas de détails encore sur d'éventuelles interpellations belges, mais l'enquête est toujours en cours. La police de Bruxelles s'attend à de nouvelles arrestations.
Les explications de Caroline N, correspondante d'RTL à Bruxelles.
Roland-Garros 2020, c'est sur RTL.
Vrai phénomène Gaston hein, sur les cours de Roland-Garros.
Le jeune Toulousain de 20 ans se qualifie en 8e de finale après son exploit face au Suisse Stan Wawrinka. Le 239e mondial a crié victoire en 5-7. Oui.
C'est fou ce qui se passe, vraiment, merci à tous d'être venus. Vous êtes super. J'ai essayé de jouer mon jeu, voilà, je suis rentré sur le terrain pour gagner. Je pensais pas forcément gagner, mais j'ai tout fait grâce à vous, m'avez poussé, merci à tous.
Il affrontera donc demain l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial et récent vainqueur à l'US Open, pour une place en quart. Côté dame, Caroline Garcia s'est aussi qualifiée en battant la Belge Mertens. À suivre sur les cours aujourd'hui, Clara Burel contre la Chinoise Zhang, tandis que Fiona Ferro fera face à la Roumaine Patricia Maritig.
En football, la victoire écrasante du PSG hier soir n'aura pas suffi à calmer les tensions.
Les Parisiens se sont imposés 6 buts à 1 face aux Angevins, mais c'est sans compter cette polémique lancée par Thomas Tuchel, l'entraîneur. Et le directeur sportif a vite répondu, Philippe Sanfourche.
Oui, Tuchel-Leonardo, le conflit est ouvert désormais sur fond de mercato impacté par la crise sanitaire et économique. L'entraîneur n'avait pas hésité jeudi à se plaindre publiquement. Pour lui, le PSG s'est affaibli cet été.
Aujourd'hui, c'est la réalité. Ça reste comme ça, ça va être pas possible.
Pas possible de briller en Ligue des Champions. La faute à son directeur sportif, incapable de conserver ses joueurs ou de les vendre correctement.
On perd trop de joueurs sans recevoir de l'argent. C'est trop pour un club comme PSG.
L'attaque est frontale et la réponse ne s'est pas faite attendre. Hier soir, juste après la rencontre, Leonardo recadre son entraîneur.
Le club n'a pas aimé. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Si quelqu'un n'est pas content, c'est facile, on parle, il n'y a aucun souci. Mais s'il décide de rester, doit de respecter la politique sportive, les règles internes, c'est une question de forme.
Sans aller jusqu'au licenciement, Thomas Tuchel pourrait être sanctionné en interne. Son contrat, qui prend fin à l'été prochain, ne sera de toute façon pas prolongé. Reste à savoir comment la saison va pouvoir se dérouler sereinement dans un climat de guerre interne entre les deux hommes forts du secteur sportif.
Philippe Sanfourche du service des sports d'RTL. Et puis suite de la 6e journée de Ligue 1 avec 2 matchs à suivre, Lens-Saint-Etienne à 17h et Nice-Nantes à 21h. Rencontre à suivre dans On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, puis dans RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
Merci Aude, RTL.fr, toute l'actualité. Tiens, le football, le choc du week-end en Ligue 1, c'est demain soir, ce sera Lyon-Marseille et c'est sur cette rencontre que porte la grosse cote du samedi.